94, Brun aussi.
Voilà.
C'est le plus difficile.
Les Anglais qu'on a trouvés dans le minibus.
Oui.
Qui était d'accord avec moi, c'est...
On le comprenait bien.
Plus, oui, plus que la vitesse, c'est les différents accents qui viennent.
C'est ça, c'est les intonations sur...
Mais il parlait quand même, j'avais l'impression qu'il ne parlait pas très vite, parce que j'ai su
non, mais,
quand même
mais, ce que vous disiez. Mais parce qu'il se mettait à ma portée.
Ah, voilà.
Justement. Mais dis donc, tes mariniers sont partis, là.
Mais je ne sais pas.
On peut en parler,
Oui, d'accord, oui.
Dis-moi ton plan de travail quand tu étais aux ARCT, tu as commencé comment?
J'ai commencé comment?
À quel âge?
Ah, à quel âge? J'ai commencé à 18 ans.
Après l'école?
Oui, bien sûr.
Et tu as fait quoi quand tu as commencé?
Je suis entré directement là-bas. J'ai été pris 3 jours à l'essai. Au bout de 3 jours, j'ai été embauché. Je faisais quoi? Je faisais de la mécanique. J'ai commencé par travailler aux pièces. J'étais mal payé, mais on rigolait bien. Contrairement à aujourd'hui, où on est mal payé et on ne rigole plus. Mais c'était ce que c'était. C'était pas un travail très intéressant, mais... Disons qu'il y avait une possibilité d'évoluer, et c'est ce que j'ai fait. Et en 25 ans de carrière, je suis passé de... Je ne sais plus ce que j'avais comme grade. Enfin, je n'avais pas de grade du tout, quoi, de départ. J'étais devenu responsable du service, d'une partie du service informatique, quoi.
Oui, mais tes étapes ont été comment?
Oh, mes étapes ont été... disons que j'ai été ajusteur au départ pendant quelques années, et puis ajusteur monteur, c'est-à-dire que je faisais des déplacements à l'étranger et en France pour monter des machines, parce que les machines qui se construisaient à l'époque aux ARCT, c'était des machines de 9 travées, on appelait ça des assembleuses retordeuses ou des machines à fausse torsion. C'était des machines pour les assembleuses retordeuses qui faisaient 9 travées en général, et chaque travée faisait 9,20 m. Alors tu vois que on ne pouvait pas expédier ça d'un bloc chez le client, alors c'était tout en pièces détachées dans des caisses, ça partait chez le client et nous on allait les monter là-bas.
Et c'était des machines textiles?
C'était des machines pour fabriquer du fil.
Pour
fabriquer plus exactement pour le faire. Ce que j'appelle les assembleuses retordeuses, ce sont des machines sur lesquelles tu avais... parce que au départ, le fil, ça part du brut. Prenons la laine, par exemple.
Les bobines, les grosses bobines.
Les moutons sont tondus.
Oui, oui.
Et puis là, à partir de là, on a des gros paquets de laine. Et alors, il faut mettre tout ça en fil. Alors, il y a entre les ourdissoirs, j'ai oublié le nom de certaines machines qui passent avant aussi, et on arrivait au bout de la chaîne là, on prenait plusieurs fils, les machines là prenaient plusieurs fils, les assemblaient et les retordaient.
Ah,
si
oui.
Tu prends un fil à coude, tu verras, il n'est pas tout droit.
Oui, oui.
Il y a plusieurs brins qui sont tous
retordus les uns avec les autres.
Voilà, donc nous on fabriquait ce type de machine. Et ça marchait du tonnerre de Dieu, parce que à l'époque, on expédiait, l'entreprise expédiait dans le monde entier.
Et alors tu as beaucoup été à l'étranger?
Oh, je n'ai pas beaucoup bourlingué, moi, non. Non, je suis allé dans le nord surtout, dans le nord de la France. Et sur le coup, ça me faisait pas plaisir. J'ai dit, qu'est-ce que je vais foutre dans le nord? Aujourd'hui, avec le recul, je me dis, mais c'était une aubaine, parce que j'aurais jamais connu le nord de la France si j'y étais pas allé pour ça.
Mm-hmm.
Parce que comme c'est pas un lieu touristique, on n'y va pas pour se promener, on peut y aller pour travailler dans ces coins-là. C'est ce qui m'est arrivé. Et c'était bien. C'est ce qui m'a permis, quand j'étais là-bas, d'aller à Bruxelles, enfin de faire une partie de la Belgique, quoi. Et de voir qu'à Ostende, au mois d'août, ben, pour se baigner, il faut déjà être courageux, quoi.
L'eau est fraîche.
Ah ben, ben ça, pour être fraîche, elle est fraîche, oui. Et puis je peux te dire que la couleur ne t'incite pas à t'y jeter. Hein.
Ah non?
Ah ben moi, je sais que je suis allé à l'eau, j'ai dû faire deux brasses, je me suis trempé jusqu'au sein. J'ai dû faire deux brasses, et je suis ressorti en courant pour aller me mettre à l'abri du vent derrière une dune. Alors ça, c'était... J'ai un souvenir d'Ostende, c'était à Ostende, vraiment très désagréable.
Et alors après ce passage, tu as fait quoi?
Après ce passage, j'ai fait quoi? Je suis revenu dans les ateliers. Qu'est-ce que j'ai fait après? Je ne me rappelle plus. Je suis venu dans les ateliers, oui, puis après je suis allé dans un bureau faire plus ou moins du planning, je ne sais plus trop exactement. Après j'ai fait des méthodes, méthodes de montage. Puis parallèlement, j'allais à l'école les soirs, je reprenais les cours, des fois les samedis matins. Alors, c'est pour ça que...
Et des cours de dessin, des cours...
Oui, des cours de dessin, de n'importe quoi, toutes sortes de cours. Je peux dire, toute ma vie, je me suis formé, hein, Non, sauf au début, là, j'ai quitté l'école à 18 ans, j'ai repris des études, donc, en gros, on peut avoir pas loin de la trentaine, c'est ce qui fait 12 ans. Mais après, je peux dire, tous les 5 ans, je me formais
pour quelque chose.
Mais individuellement, hein, tout seul, je faisais ça.
Par plaisir.
T'es parti à 3. Par plaisir, et puis, plus ou moins par plaisir, mais surtout aussi pour moi, pour pouvoir quand on me disait quelque chose, être capable de dire. J'ai jamais aimé dire amen. J'aime bien discuter, moi, tu comprends. Mais quand on veut me faire dire amen, non. Je ne dis amen que si j'ai compris. Et si je suis d'accord avec. Si j'ai compris et que je ne suis pas d'accord, je le dis. Mm-hmm. Bon, et puis de là, de la discussion, jaillit la lumière.
Voilà.
C'est bien connu. Et pour aller de l'avant, il faut quelque. Ma conviction, c'est que dans une entreprise, si on a affaire qu'à des gens qui disent toujours amen, ben ça peut pas aller. Il ne peut pas y avoir de progression. Le chef décide. S'il décide quelque chose de bien, c'est formidable. S'il décide une connerie, c'est la catastrophe. C'est pour ça que les bénis oui-oui, moi j'ai horreur de ça. C'est ce qui m'a barré aussi, c'est ce qui m'a toujours empêché de gravir les échelons, normalement. Quand je les ai gravis, ça a été parce que ça pouvait pas être autrement. Je me souviens d'un détail. À une époque, j'étais aux méthodes montage. Et y a un directeur qui dit, je comprends pas, on est cher par rapport aux concurrents, on est trop cher dans nos expéditions, et ça va pas. Je dis, mais si vous voulez, moi je peux essayer de regarder pourquoi, faire une étude. Allez-y. Bon. Alors j'ai commencé par regarder. J'ai d'abord vu qu'on emballait nos pièces dans des caisses avec des planches beaucoup trop épaisses, qui faisaient un poids important. J'ai commencé par réduire l'épaisseur de ces caisses. Et puis il y avait dans nos machines ce qu'on appelait des cantres. Des cantres, ce sont des espèces de râteliers sur lesquels on met des bobines et qui distribuent le fil. Donc. Et ces cantres étaient montés de façon spéciale. C'était deux barres rondes, tu vois, à chaque fois, qui tenaient. On appelait ça des échelles. Il y en avait donc 18, et ça fait qu'on en avait 19, par 19 d'un côté, 19 de l'autre, 38, et c'était tout monté sur des barres qui faisaient 2,50 m de long, 25 mm de diamètre, Et c'était et ça pesait. Alors un beau jour, j'ai posé la question au bureau d'études, j'ai demandé au gars qui dessinait ça, est-ce qu'il ne serait pas possible de mettre des tubes plutôt que de mettre des barres pleines? Alors sa réponse a été oui, mais le tube coûte deux fois plus cher que les barres. Alors là-dessus, j'avais le renseignement que je voulais, parce que en fait, c'était on achetait les tubes ou les barres au poids, non pas
au poids.
Alors j'ai fait le calcul et j'ai répondu, j'ai dit tu fais comme tu veux, mais et puis j'avais envoyé un double au patron aussi là, parce que j'ai dit il va encore me bananer le gars. Et je lui ai dit c'est possible que le tube coûte deux fois plus cher que la barre pleine, mais dans la mesure où le tube pèse sept fois moins, je pense qu'il y aurait pas mal à gagner. Et dès que les barres ont été épuisées, les tubes sont arrivés. J'ai jamais rien gagné, j'ai jamais eu un sou de plus parce que j'avais fait gagner de l'argent à l'entreprise. Bon, probablement que je suis né pour être comme ça, quoi, mais bon, pour être banané.
Et alors après, quand tu as eu fini tout ça, tu as pris des cours de langue?
Non, c'est les cours de langue. Ah si, j'avais pris quelques cours d'anglais pendant que j'étais là, à ce moment-là, j'étais où? Non, j'étais en informatique. Là. Non, alors un jour, il y a eu une note interne, il cherchait quelqu'un pour aller à l'informatique. Il y avait un recrutement interne, alors il fallait s'inscrire. Moi j'ai dit, je voudrais bien savoir ce que c'est, je vais y aller. Mais il y avait des tests à passer, on était, je sais pas, 35 ou 40. Mais moi je voulais passer ces tests pour voir ce que c'était. Et puis c'était tout. Seulement, manque de peau, à la fin des tests, soi-disant que le meilleur c'était moi. Alors ils m'ont retenu, ils m'ont dit, il faut que vous alliez à l'informatique. Ben, j'ai dit non, moi ça ne m'intéresse pas. Vous allez à Paris vous former. Ah non, moi je suis là où je suis, je veux y rester. Pas question. Et puis alors, ils se sont mis à me titiller, à faire pression. Ils m'ont envoyé, ils se sont mis à me faire du dessin, etc. Jusqu'au moment où j'ai été obligé de céder et puis de partir à Paris en formation quoi, pour l'informatique. Et c'est comme ça que je suis devenu chef d'exploitation informatique, jusqu'au jour où l'entreprise a fermé. Mais bon, ça...
C'est une autre histoire.
C'est une autre histoire. L'entreprise a fermé et donc je me suis retrouvé en situation d'échec. Et partout où je suis passé après, on m'a bien fait sentir. Ça a été assez traumatisant, assez désagréable. Peut-être que si je m'étais mis à dire oui et amen à tout ce qu'on me disait, ça aurait passé, mais c'est pas dans mon tempérament. Alors, je peux rien regretter, hein, c'est comme ça. J'ai pas l'habitude de dire oui. Si quelqu'un veut me faire croire que ta table noire là est blanche, je dirais jamais oui. Je dirais non. Elle est noire, point. Mais ça, il faut dire, les chefs souvent aiment bien qu'on dise
comme
voilà. Le problème que j'ai eu par la suite, donc je vais la citer, la dernière entreprise dans laquelle je suis passé, c'est-à-dire EDF, il y a des chefs qui se prennent pour des petits dieux à chaque fois, qui n'admettent pas la discussion. Il faut faire ce qu'ils ont dit. Moi, j'aime bien discuter. D'autant que j'ai toujours fait ce qui est dit. Hein. Tu as vu mon petit papier. Bien que discipliné, il n'était pas soumis. Je suis discipliné, mais pas soumis. Je ne dirai jamais amen. Je ne l'ai jamais fait et je ne vais pas commencer aujourd'hui. D'autant plus que j'y suis plus aujourd'hui. Mais pour te dire, là-bas, tout ce que j'ai dit, je me suis rendu compte après coup, à chaque fois, j'ai eu tort d'avoir raison. Et puis voilà, quoi, il est arrivé ce qui devait arriver. Je suis arrivé au bout du rouleau, je suis à la retraite. Mais ça, c'est normal, c'est que ce soit avec eux ou avec d'autres, il n'y a pas, pas d'autres possibilités. C'est logique. Mais disons que je n'ai jamais évolué d'un poil là-bas. Parce que j'ai jamais admis qu'on ne reconnaisse pas mon travail. Qu'on ne puisse rien reprocher à quelqu'un et qu'on lui fasse des vacheries, ça c'est inadmissible. Pourquoi ? Parce que ce quelqu'un n'a jamais léché les bottes à personne. Il n'avait pas l'intention de commencer là. Et voilà.